Nous sommes le lundi 1er avril 2019. Tout de suite, les faits majeurs. La session ordinaire 2019 de l'Assemblée nationale ivoirienne s'est ouverte ce matin au palais de l'Assemblée nationale au plateau. La cérémonie solennelle était présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Les détails dans quelques instants. Appui au renforcement de la démocratie en Côte d'Ivoire à travers le processus électoral de 2018, la POSI a présenté son rapport aux partis politiques, aux organisations de la société civile et à la presse. En France, ouverture du procès pour double meurtre et viol d'un étranger expulsable. Après l'actualité internationale, vous pourrez suivre le dossier de Radi Razak Wilfried, dossier relatif au phénomène des enfants anti-bagages à Yamoussoukro. L'invité de la rédaction pour finir est le président du réseau Equitas Côte d'Ivoire, Ali Ouattara, posera un regard sur la pratique de la torture en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays africains de l'espace francophone. Bonjour à tous, on commence par les activités de l'Assemblée nationale. La session ordinaire de l'année 2019 s'est ouverte ce matin au plateau. Cette rencontre a été dirigée par le nouveau président de l'institution qui a été élu à sa tête le jeudi 7 mars dernier. Amadou Soumaoro succède ainsi à Guillaume Soro qui a démissionné de ce poste un mois plus tôt au cours de la cérémonie solennelle présidée par Alassane Ouattara, le chef de l'État ivoirien. Amadou Soumaoro a délivré son discours et a donné les principales les orientations de cette session. On enchaîne avec le discours du président de la République.
La présente session s'ouvre dans un contexte international marqué par une résurgence de la violence à travers le monde. En particulier, notre continent doit faire face aux défis de la paix, de la sécurité et du développement. Les attaques terroristes qui ont encore lieu près de nous nous interpellent et nous rappellent la vigilance qu'il y a lieu d'observer à chaque instant. La nécessité d'une lutte collective par la mutualisation des moyens des États face à ces défis sécuritaires est devenu indispensable pour endiguer ce fléau qui gangrène le développement de nos États. Dans cette perspective, il incombe au Parlement de durcir les lois existantes contre le terrorisme et de veiller à leur application. Par ailleurs, outre les défis négatifs du changement climatique, il nous faut nous pencher sur le phénomène de la migration qui touche particulièrement les jeunes. Le nombre de morts dans la Méditerranée et les images insupportables du traitement inhumain infligé à des jeunes Africains par des Africains esclavagistes nous rappellent l'urgence de l'action à entreprendre pour une gestion efficace de ce phénomène.
C'était Amadou Soumaoro, le tout nouveau président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Nous reviendrons sur l'intervention du président ivoirien dans nos prochaines éditions. Paix et cohésion sociale à Daloa, à la fidèle des différentes confessions religieuses, à savoir musulmans et chrétiens, ont prié du vendredi 28 au samedi 30 mars pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Prière, lecture du Saint-Coran et de la Bible, puis des sacrifices ont été les temps forts des cérémonies d'invocation. Les détails avec vous, Jean-Claude Mabia.
Parrain de ces journées de prière pour la paix, le sénateur Touré Lansiné, par ailleurs chef des communautés venues d'autres régions de Côte d'Ivoire, situe ici l'objet de cette commémoration.
Compte tenu de la situation sociopolitique du pays, alors nous avons pensé qu'il fallait absolument faire les lectures coraniques dans les mosquées. Nous avons aussi eu des révélations aussi des confessions religieuses. Comme nous tenons tous à la paix sociale comme la prunelle de nos yeux, nous avons donc organisé ces prières-là et nous avons immolé aussi des pour que Dieu entende notre voix, nos pensées et nous protège. Que nous nous aimions, que nous ayons un comportement de paix. Le pays en a vraiment besoin.
Une telle action de haute portée spirituelle est une nécessité, comme nous l'indiquent des guides religieux.
Docteur Tichi Junior, secrétaire général adjoint de la plateforme des guides et leaders religieux de Daloa. Chez nous, il n'y a pas de barrière entre le musulman et le chrétien. D'après, répond aux soucis d'apaisement des cœurs. Tout le monde attend 2020. Les élections vont venir. Il y y a des rumeurs qui passent, il y a des suspicions ici et cela, il y a des rancœurs. Donc nous voulons le désarmement des cœurs, des esprits, des pensées, pour que effectivement tout le monde se donne la main et que nous puissions penser une Côte d'Ivoire de paix durable.
Imam Touré Alpha, chaque fois que nous avons des troupes qui menacent la paix, il faut faire des sacrifices, faire des invocations, les prières. Allah nous donne la paix dans notre beau pays.
Tous souhaitent que de telles initiatives puissent effectivement contribuer à maintenir et à consolider la paix et l'unité nationale.
Le calme est revenu dans la région de Bounkani après des tensions entre communautés, tensions suscitées par des rumeurs autour du phénomène de la disparition des sexes. Après environ 16 plaintes déposées par des populations, le substitut résident près le tribunal de Bouna a réuni récemment les responsables des communautés, les élus locaux puis les autorités administratives des différents départements du Bounkani pour trouver des solutions au phénomène. Les résolutions prises lors de cette rencontre avec le magistrat Étienne Thiemélé, substitué résident près la section du tribunal de Bouna.
J'ai jugé nécessaire de réunir toutes les différentes couches sociales de la région pour pouvoir aborder ensemble le sujet et échanger sérieusement sur la question et puis pouvoir trouver des solutions et puis faire connaître la position du parquet pour prévenir les fausses rumeurs et les faux bruits qui couraient et qui créaient beaucoup plus de mal même que le phénomène lui-même. Au cours donc de cette réunion, 4 résolutions ont pu être retenues. La première résolution, c'est que les éventuelles victimes de disparition de sexe doivent éviter de se rendre justice elles-mêmes. Elles doivent éviter de provoquer des attroupements parce qu'il y a des personnes qui ont failli être lynchées pour avoir été accusées de faire disparaître des sexes. Elles doivent plutôt saisir les autorités traditionnelles ainsi que les autorités administratives, les unités de police ou de gendarmerie et les autorités judiciaires. La deuxième résolution, s'il y a effectivement des personnes qui s'adonnent à cette basse besogne, il fallait qu'elles arrêtent. Sinon, la loi s'appliquerait à ces personnes-là dans toute sa rigueur. La troisième résolution, quant à ceux qui font courir les faux bruits parce qu'il y en avait beaucoup, c'est pour dire qu'il y avait une véritable psychose créée volontairement par certaines personnes. La dernière résolution, elle concernait la question de sécurité dans toute la région de Boukani.
Étienne Thiemélé, substitut résident près la section du tribunal de Bouna. Et puis la plateforme de l'Organisation de la Société Civile pour l'Observation des Élections en Côte d'Ivoire a exécuté des activités pour la mise en œuvre de son projet intitulé « Appui de la poésie au renforcement de la démocratie à travers le processus électoral de 2018 ». Et cela grâce au soutien technique et financier du NDI et de l'USAID. À l'issue de l'observation, la poésie a présenté vendredi dans la commune de Cocody le communiqué de presse, aux partis politiques, aux organisations de la société civile et aux journalistes, suivant un extrait lu par son secrétaire général Adjoumani Kwame Pierre.
Que ces différents scrutins et opérations d'enrôlement se sont déroulés dans un contexte de cristallisation du climat politique, d'absence de pluralité de candidatures, du fait du refus de l'opposition d'y participer et de contestation de la commission électorale indépendante chargée de mener à bien le processus électoraux. Les pertes en vies humaines et la destruction des biens publics et privés sont venus rappeler la précarité de l'environnement sociopolitique et la persistance des tensions entre les acteurs politiques. Suite à la réalisation de ces activités d'observation au cours du processus électoral de 2018, la poésie publiera son rapport d'observation en mettant l'accent sur certains des points essentiels à l'attention aussi bien des gouvernants, des partis politiques, de la société civile que de la commission électorale indépendante. De son analyse, les discussions pour la réforme électorale du cadre institutionnel et juridique doivent se poursuivre dans un cadre tripartite afin d'aboutir à une commission électorale consensuelle, indépendante et impartiale pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire.
Vous écoutiez à l'instant Adjoumani Kwame Pierre, secrétaire général de la plateforme de l'Organisation de la Société Civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire. Autonomisation et dividendes démographiques des femmes du Sahel. Les pays de cet espace qui veulent en tirer profit ont refermé la quatrième réunion de leur comité de pilotage. C'était samedi à Abidjan. À cette occasion, l'appui des partenaires, dont celui de la Banque mondiale, a été sollicité. En réaction et au nom de cette institution, Christophe Lumière a tenu à rassurer les États membres.
On a pu voir des résultats très forts en 2018, y compris des résultats en termes d'impact, comme on a pu l'illustrer avec les effets sur la scolarité des filles. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très très positif et je souhaite qu'on puisse continuer dans cette voie, au moins pour cette année 2019 et éventuellement 2020. J'ai bien entendu le message venant de toutes parts concernant l'idée d'une deuxième phase du projet. C'est effectivement quelque chose que la Banque mondiale envisage. On a eu l'occasion d'en parler, à la fois avec l'intégration de nouveaux pays et puis bien entendu avec la mise à l'échelle des actions déjà entreprises dans les pays qui sont aujourd'hui dans l'espace SWED, y compris le Bénin qui nous a rejoints au mois de janvier. Je voulais simplement insister sur la priorité absolue qui est celle de maximiser les résultats. On a cette chance de pouvoir s'appuyer sur plusieurs années d'expérience. Il faut en tirer le profit maximum et il faut aussi essayer de cibler le plus possible les appuis qui pourront être donnés puisque j'ai bien conscience que les besoins sont gigantesques et même en mobilisant d'autres financements, il n'empêche qu'il faudra effectivement prioriser ces appuis, notamment sur le plan géographique.
C'était Christophe Lumière, représentant de la Banque mondiale à la quatrième réunion du comité de pilotage du projet SWED. Pour rappel, le SWED ou l'autonomisation et le dividende démographique des femmes du Sahel est le résultat d'une réponse conjointe des Nations Unies et du groupe de la Banque mondiale, répondant à un appel lancé par les présidents de plusieurs pays du Sahel, à savoir le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Bénin. L'objectif est de permettre à ses principaux bénéficiaires, disons les bénéficiaires, les femmes et les jeunes filles, d'être autonomes et de pouvoir prendre des décisions qui contribueront de façon durable au développement de leur communauté en vue de réduire les inégalités de genre dans la région du Sahel. Son lancement officiel a eu lieu en novembre 2015. Transport, la Côte d'Ivoire veut être un hub au niveau aérien dans la sous-région et en Afrique subsaharienne. Un plan de rénovation et d'extension de plusieurs aéroport est actuellement en cours. L'information a été révélée le week-end écoulé à Yamoussoukro par le ministre de tutelle. C'était au cours du baptême de la deuxième promotion des élèves pilotes formés à l'Institut National Polytechnique Félix Oufo-Boigny. Nous écoutons Amadou Kouni.
Nous voulons que la Côte d'Ivoire devienne un hub au niveau aérien dans la sous-région, mais au-delà en Afrique subsaharienne. Donc nous sommes en train d'y travailler. Le gouvernement met en place donc, les infrastructures. Nous accompagnons aussi, grâce aux efforts des uns et des autres, notamment de l'Institut, la formation. On a des ambitions très fortes par rapport au secteur aérien. Nous avons en ce moment signé pour l'agrandissement de l'aéroport de Korogo. C'est là ça a commencé. Nous allons commencer d'autres aéroports à l'intérieur du pays. Nous envisageons d'ouvrir des lignes donc, à l'intérieur du pays. On a un vaste programme de réhabilitation, d'agrandissement donc, des aéroports en cours. Et le plus important donc, de ces travaux d'extension, c'est l'aéroport d'Abidjan. Donc les discussions sont très bien avancées. Nous sommes en train d'y travailler pour que nous commencions le plus rapidement possible. En tout cas, avant la fin de cette année, que nous puissions signer les accords nécessaires donc, au démarrage des travaux d'extension de l'aéroport d'Abidjan.
Propos d'Amadou Koné, le ministre ivoirien des Transports, saisi de 18 000 tonnes de riz avariés au port autonome d'Abidjan. Le président de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire affirme saluer la réactivité du ministère du Commerce. Il dit attendre également la cérémonie de destruction effective de cette quantité de riz avariés. La suite avec Jean-Baptiste Kofi.
C'est une excellente nouvelle. Souvenez-vous que ce sont les organisations de consommateurs qui ont alerté nos autorités de ce que du riz d'une qualité qui est contesté par d'autres pays est arrivé dans notre pays. Donc c'est suite à notre interpellation que le ministère du Commerce a pris le dossier en main et demandé à ce que la direction générale du port nous reçoive pour nous donner toutes les informations sur la procédure d'importation en Côte d'Ivoire et nous montrer que des dispositions sont prises finalement pour la sécurité des consommateurs. Et cette rencontre a eu lieu. La décision majeure, c'était que le riz est arrivé effectivement et il était dans les entrepôts de la douane. Le temps d'effectuer des contrôles. Alors, d'habitude, quand on importe, il y a des contrôles qui se font, mais pour cette variété de riz, le ministère du Commerce a demandé la liste complémentaire. Donc, je crois que ces résultats sont parvenus finalement au ministère et nous avons entendu dans le communiqué la position du ministère disant que le riz était saisi, donc devait être détruit. Donc, nous nous réjouissons de cette réactivité de notre ministère et nous nous réjouissons également de la coopération de toute l'administration parce que le riz a été gardé par la douane et nous attendons maintenant d'être conviés à cette cérémonie de destruction qui va rassurer davantage tout le monde.
Jean-Baptiste Kofi, président de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire. Nous ouvrons à présent la page de l'actualité internationale. Au procès d'un homme se présentant comme un Rwandais né en Ouganda s'est ouvert aujourd'hui devant les assises alors qu'il aurait dû être expulsé à sa sortie de prison un mois plus tôt. Accusé d'un double meurtre et d'un viol dans le nord-ouest de la France en 2015, Jean-Claude Nsengumu Kiza, âgé de 38 ans, est poursuivi pour le meurtre par strangulation de Julien 31 à Élise 24 ans, ainsi que pour le viol de la jeune femme dans la nuit du 19 au 20 décembre 2015 à Rouen, rapporte l'AFP. Retour en Côte d'Ivoire depuis quelque temps, le phénomène des enfants anti-bagages ou enfants porte-faim a pris de l'ampleur à Yamoussoukro. Face à cette situation, SOS Village d'enfants de la ville a mis sur pied un programme de réinsertion orienté spécialement vers les jeunes filles qui s'adonnent à cette pratique. Elles sont alphabétisées et formées à divers métiers. Comment le projet se déroule sur le terrain et quelles en sont les retombées? Pour en savoir plus, suivons le dossier d'actualité réalisé par Adi Razak Wilfried.
Voyons avec Diakité Mamadou, le coordonnateur local du programme de renforcement de la famille à SOS Village d'enfants Yamoussoukro, les raisons qui ont motivé le projet d'anti-bagage.
On a remarqué aujourd'hui dans nos marchés, le grand marché est Mofete, beaucoup de jeunes filles en âge d'aller à l'école qui se retrouvent sur ces marchés-là pour transporter des bagages, moyennant 50 francs. Et ça devient un phénomène de plus en plus croissant qui aujourd'hui porte atteinte à la protection de l'enfant, surtout aussi aux droits de l'enfant.
Comme partenaire d'exécution, l'institution d'éducation de formation féminine IFEF de Yamoussoukro, Kodjo Ebakorine en est la directrice, elle se prononce sur le projet.
Avec tout le risque que cela comporte, elles ne pensent qu'à l'argent. Alors que cet argent ne peut même pas couvrir leurs dépenses. Nous allons les encadrer en 2 ou 3 ans. Ce projet rentre dans le cadre des objectifs et de la vision des IFEF. Réinsérer les jeunes filles déscolarisées et non scolarisées. Elles donner en tout cas une seconde chance.
Cette seconde chance, les jeunes filles anti-bagages d'hier l'ont véritablement saisie. Le témoignage de deux d'entre elles.
Tu faisais anti-bagages à où ça?
Grand marché.
Pourquoi tu es parti pour faire?
Parce que maman n'a pas l'argent.
D'ici là, ça se passe comment?
Je suis content. C'est difficile.
Mais tu te décroches pas.
Je veux continuer.
Et partir à l'école, quand on pourrait décider de ne plus avoir les moyens pour terminer. Comme mes petits frères sont encore derrière, j'ai décidé de faire l'anti-barrage pour pouvoir aider maman un peu à payer les études de mon frère. J'ai croisé un tonton de SOS, mon voisin lui fait ici. Avant de venir, il ne savait pas faire beaucoup de choses, mais maintenant il sait tisser, il peut faire les petites coiffures, défrisages, pédicures, manicures. Quand ça a fini, il va avoir mon propre salon pour pouvoir aider mes soeurs et puis motiver les filles aussi. Ils sont sur le marché à faire comme moi.
Le projet a aussi un volet droit des jeunes filles. Kamagaté Nabiba, assistante sociale, en est la responsable.
Elle peut être violée, enlèvement, violence physique, violence verbale. En plus de ça aussi, les bagages que les enfants soulèvent. Souvent, ce sont des bagages même qui ne vont même pas avec la morphologie de l'enfant. Ça peut causer des maladies.
Dans la conception du projet anti-bagages de SOS Village d'enfants Yamoussoukro, le caractère durable a été un point d'honneur, nous indique Diakité Mamadou, le coordonnateur.
Insérer celles avec qui on travaille déjà. En 2019, 50 jeunes filles insérées, celles qui sont en formation, mais aussi maintenir dans les classes celles qui vont déjà à l'école. À côté de cela, essayer de faire une sensibilisation pour que nous puissions avoir plus d'impact dans la communauté, toucher plus de personnes pour retirer ces filles-là du marché.
Yamoussoukro, Radi Razak Wilfried, la radio de la paix.
Nous en arrivons à l'invité de la rédaction qui est le président du réseau Equitas Côte d'Ivoire. Il évoque ici la pratique de la torture qui, selon lui, est une réalité dans le pays et dans plusieurs pays africains de l'espace francophone. Ali Ouattara s'entretient avec Junior Cardin.
Ali Ouattara, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président du réseau Equitas Côte d'Ivoire et vous venez donc de sortir d'un atelier de réflexion par rapport donc à un programme prévention de la torture dans la francophonie. Ce programme, pourquoi ?
Ce programme, c'est que après des études et des analyses, nous sommes rendus compte au niveau des pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest qu'il y avait cette pratique-là, malheureusement, dans nos différents États. Et donc, nous avons constitué ensemble un programme et appuyé par Equitas Canada pour que nous puissions, dans cet espace francophone-là, à travers ces 7 pays-là, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Cameroun, le Sénégal, la RDC, le Burundi, le Rwanda, donc dans ces différents pays-là, faire un travail de prévention contre la torture, justement.
Et c'est quoi la torture?
Il s'agit notamment d'infliger une souffrance, aussi bien morale que physique, à un individu par un agent étatique dans le but de lui extorquer des aveux.
Quelle présentation vous pouvez faire de ce programme?
Il s'agissait pour nous, de façon pratique, à travers donc des activités menées dans cet espace-là, de pouvoir sensibiliser aussi bien les acteurs étatiques comme nous étatiques à la prévention de la torture. Également profiter pour faire du plaidoyer pour les autorités étatiques, pour que les États où la convention n'a pas été ratifiée puissent être faits, pour que les États où ça a été ratifié, que le protocole facultatif de la convention contre la torture puisse également être ratifié, ce qui permettrait à les ONG de pouvoir visiter les lieux de détention, voir les conditions de détention, également de pouvoir porter individuellement des peines contre un État auprès des Nations Unies au niveau du comité contre la torture.
Et ce programme a duré combien de temps et quels sont les différents secteurs que vous avez pu visiter dans vos investigations?
De plan pratique, ça fait 4 ans, de 2015 à 2019. Mais il a commencé un peu en amont. Mais dans la phase pratique, c'est de 2015 à 2019. Il prendra fin réellement à la fin du mois de mars. Et donc, nous avons visité beaucoup de secteurs, comme vous le dites, à travers déjà la formation des organisations de défense des droits humains. Chaque 2 ans, nous avons donc organisé des sessions sous-régionales dans des pays bien ciblés de l'espace francophone. Au cours de ces formations-là, nous formons à la prévention contre la torture, à d'autres modules, bien sûr. En plus des ONG, des acteurs de la société civile, nous y associons également des gens des différents ministères concernés justement par la pratique de la torture, notamment les forces de l'ordre, la gendarmerie, la police, les ministères concernés, le ministère de la justice.
Quels sont les résultats obtenus?
Il y a par exemple 200 000 auditeurs que nous avons sensibilisés sur la ratification du protocole facultatif, donc l'OFCAT. Il y a les capacités de 27 personnes qui ont été renforcées sur les instruments juridiques relatifs à la prévention contre la torture à Boaké, pour être précis. Il y a 597 personnes, dont 398 femmes et 199 hommes, qui ont participé à la journée de mobilisation sociale pour la ratification du protocole facultatif à Abidjan.
Dans les pays concernés par ce programme, les résultats, comment vous les trouvez? Satisfaisants ou beaucoup reste à faire selon vous?
Bien sûr, c'est satisfaisant, mais il faut le dire, beaucoup reste à faire. Parce que justement, beaucoup de personnes pratiquent la torture sans se rendre compte que c'est la torture qu'ils font. D'où la nécessité d'élargir cela à non seulement les différentes prisons, les détentions, mais les violons également. Et pouvoir introduire dans le curriculum, donc les modules de formation au niveau des écoles des forces de l'ordre, il faut qu'on puisse introduire justement ces différents modules-là de prévention contre la torture.
Et comment vous jugez la Côte d'Ivoire aujourd'hui par rapport donc à cette pratique de la torture? Est-ce un bon élève, un élève moyen ou un mauvais élève?
Bien, je n'irai pas dans ce sens-là, mais je dirais que la pratique de la torture est une réalité en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas nous qui le disons. Il y a eu des enquêtes de la Commission nationale des droits de l'homme, il y a eu des enquêtes de la CDVR, il y a eu également d'autres rapports d'ONG comme par exemple les MIDH, comme Human Rights Watch et autres, à Amnesty International, qui l'attestent. Donc la pratique de la torture est une réalité en Côte d'Ivoire.
D'accord. Dans le cadre de votre programme, des recommandations sont sorties. Vous pouvez partager ces recommandations avec nous?
La première recommandation, c'est que nous souhaitons que ce travail de sensibilisation, de formation soit étendu à une plus grande couche de la population. D'où la nécessité de pouvoir faire la prévention contre la torture en langue locale. Ça pourrait permettre de toucher le plus grand nombre de personnes. Une autre recommandation, c'est justement créer des points focaux au niveau des ministères, également des lieux de détention, dont ces personnes-là seront des personnes ressources dans le cadre du travail contre la torture. Également, c'est de faire en sorte qu'on puisse introduire dans les modules de formation justement ce travail de prévention contre la torture.
Est-ce que vous avez un message à l'endroit aussi bien des populations que des gouvernants par rapport donc à ce phénomène de torture?
Je voulais préciser que souvent, il y a des pratiques qui sont usitées et ces pratiques-là, on a l'impression que c'est la torture, mais pourtant, c'est pas la torture, c'est plutôt des mauvais traitements. Souvent, ça peut être extrêmement cruel, dégradant ou humiliant. La pratique de la torture, ça concerne essentiellement des agents étatiques dans le but d'extorquer des aveux. Et il faut demander d'abord aux autorités, au plus haut niveau politique, de faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse ratifier le protocole facultatif à la Convention contre la torture. C'est un protocole qui permettra donc aux ONG de pouvoir visiter les lieux de détention. Également à tout individu de pouvoir porter plainte au niveau du comité contre la torture au niveau des Nations Unies à Genève. Dans les écoles primaires, secondaires, le cadre d'éducation à la citoyenneté, l'éducation aux droits humains, cette discipline-là, il faudrait également qu'on puisse introduire un module dans le cadre de la prévention contre la torture.
Ali Ouattara, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
L'invité du jour est le président du réseau Equitas. Il se prêtait aux questions de Junior Cardin. Avant de nous quitter, le rappel de l'essentiel. La session ordinaire 2019 de l'Assemblée nationale ivoirienne s'est ouverte ce matin au plateau au siège de l'institution. La cérémonie solennelle était présidée par Alassane Ouattara, le chef de l'État ivoirien. Cérémonie au cours de laquelle Amadou Soumaoro, le nouveau président de l'Assemblée nationale, a délivré son discours et donné les principales orientations de cette session. Appui au renforcement de la démocratie en Côte d'Ivoire à travers le processus électoral de 2018. La POECI a présenté son rapport aux partis politiques, aux organisations de la société civile et à la presse. Rapport concernant le projet intitulé « Appui de la POECI au renforcement de la démocratie à travers le processus électoral de 2018 ». Enfin, en France, ouverture du procès pour double meurtre et viol d'un étranger expulsable.